Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser largement avec nos invités. Pour vous accompagner ce soir, Maître Florence Roise, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Raphaël Steinville, journaliste JDD. Bonsoir mon cher Raphaël.
Bonsoir Olivier.
Éric Tegner nous accompagne également. Bonsoir,
bonsoir Éric. Olivier.
Et puis ce soir, nous accueillons pour cette première demi-heure l'historien Jean-Marc Albert. Bonsoir.
Bien.
Vous êtes notamment conférencier à l'Université de Columbia. À New York et bien nous allons nous intéresser à ce qui se passe là-bas, et aux similitudes avec ce qui se passe à Sciences Po également, puisque l'actualité largement marquée ces dernières heures par le blocage de Sciences Po et ses revendications, je vous le disais à l'instant, qui font écho aux contestations qui agitent certains prestigieux campus américain et un constat dans ces lieux d'enseignement où fleurissent l'idéologie islamo-gauchiste, gangrénée également par le wokisme. Comment l'expliquer? D'où viennent ces idéologies? Depuis quand? Quelle convergence? Quelles intentions? Quelle est la réalité sur le terrain? Nous allons largement y revenir, notamment avec vous, Jean-Marc Albert. Aujourd'hui, donc, théâtre de blocage par des manifestations pro-palestiniens, l'Université Columbia à New York. Dans tout le pays, d'ailleurs, c'est la mobilisation d'étudiants pro-Gaza qui enflamme le débat. Les étudiants accusés, notamment, d'alimenter l'antisémitisme sur le campus. Nous allons, avant de vous entendre, Jean-Marc Albert, retrouver notre correspondante à New York, justement, Elisabeth Guevel, pour faire un point sur la situation. Elisabeth, nous avons appris cet après-midi ici l'arrestation d'une centaine de personnes de manifestations pro-palestiniens, mais à Boston. Alors, quelle est la situation générale aux États-Unis ?
Écoutez, la situation se tend clairement sur les campus américains alors que le mouvement de protestation se généralise dans tout le pays avec ce dilemme pour les directions d'université, soit de faire appel aux forces de l'ordre pour évacuer les manifestants et démonter les campements et gérer ensuite les arrestations d'étudiants et de professeurs qui les soutiennent, ou bien négocier directement avec les manifestants pro-palestiniens pour qu'ils mettent fin à leur mouvement. Des centaines de manifestants ont déjà été arrêtés depuis le début du mouvement. Ça a été le cas, vous l'avez dit, vendredi soir, hier soir, sur le campus de Northeastern de Boston, où une centaine de manifestants ont été arrêtés, des personnes qui ne voulaient pas partir et qui donc se sont laissées arrêter. Il n'y a pas eu de violence, mais qui ne voulaient pas partir et qu'elles vont être inculpées. Pour trouble à l'ordre public, la manifestation a été infiltrée par des organisateurs professionnels. C'est ce que dit la direction pour justifier son appel à la police. Et elle dénonce un appel à tuer les Juifs qui a été entendu la veille sur le campus, ce que démentent les manifestants. En tout cas, pour les universités qui négocient directement avec les manifestants, eh bien, les discussions sont dans l'impasse. C'est le cas ici à New York, à l'Université Columbia. C'est une crise qui est loin d'être terminée avec cette crainte qu'à tout moment, eh bien, la situation bascule dans la violence et devienne complètement incontrôlable.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce point complet sur la situation. Elisabeth Guedel, donc notre correspondante depuis New York. Cette vague de soutien aux Palestiniens qui s'est étendue, on l'a entendu à l'instant, à un nombre d'établissements aux États-Unis, eh bien, elle est partie il y a 10 jours de l'université new-yorkaise Columbia, université que vous connaissez bien, mon cher Jean-Marc Albert, puisque vous y étiez encore il y a quelques jours, vous êtes conférencier, vous y donnez des conférences. Avant de creuser le nœud du problème, peut-être un mot sur l'atmosphère qui y règne. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place ?
Ça fait 19 ans que je fréquente l'Université de Columbia et j'avais encore jamais vu ça. Pas tellement dans les manifestations publiques telles qu'on les voit là, mais dans le climat anxiogène qu'on peut ressentir à la fois en cours et avec les étudiants. L'Université de Columbia, ce n'est pas son premier coup d'essai pour la révolte. Ils avaient lancé en 1967 déjà une première révolte qui avait un peu été imité en France avec mai 68. Il y avait même eu un mort. Donc c'est dire que voilà, la contestation étudiante à Columbia, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant. Ce qui a changé, c'est dans le rapport que les professeurs peuvent tisser avec les étudiants. Ils sont, même quand ils sont d'ailleurs très proches de leurs idées, globalement le corps professoral est assez progressiste, ils sont scrutés à chaque cours. Il y a une évaluation qui est faite à chaque cours, qui ne concerne pas simplement un retard ou un mot qui pourrait... Par exemple, on peut, un élève peut très bien dire que le professeur a raconté sa vie en cours et s'est enregistré. Non, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que maintenant, la moindre blague, le moindre sous-entendu, le moindre second degré peut faire l'objet de ce qu'ils appellent une micro-agression. Et vous avez des professeurs qui se retrouvent accusés d'appropriation culturelle parce qu'ils ont fait une imitation qui, pour être pas forcément délicate, n'en est pas moins simplement quelque chose de, qui relève de la pédagogie. Et vous avez des professeurs aussi qui, par exemple, peuvent se tromper en disant « her » ou « him » en fonction de la sexualité ou du genre des étudiants, puisque je rappelle qu'à Columbia, les étudiants précisent de quelle manière ils doivent être appelés en cours.
Alors là, ce que vous nous précisez très clairement, c'est cette idéologie woke, finalement, qui a gangréné aujourd'hui l'université américaine. Comment est-ce que c'est arrivé? Depuis combien de temps, finalement, quand on refait l'histoire de l'université américaine?
On a là, je pense d'ailleurs, un trait extrêmement commun avec ce qui se passe à Sciences Po.
Ouais.
Tout part, à mon avis, de ce qu'on a appelé la discrimination positive ou l'affirmative action aux États-Unis. Quand dans les années 60, par exemple, les Afro-Américains militaient pour entrer à l'université, quand vous aviez des minorités sexuelles, je pense au combat qui avait été mené à Berkeley avec les sit-in, quand vous aviez ce type de manifestation, c'était de la part de groupes qui voulaient s'agréger à la culture commune américaine. C'est-à-dire qu'ils avaient le sentiment que l'université, c'était vraiment le lieu où pouvait se construire une ascension sociale, et ils y croyaient. Et eux, ce qu'ils en fait dénonçaient, c'était la discrimination à l'entrée. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le même type de revendication, c'est-à-dire que avec l'extension des droits, qui sont devenus une revendication permanente, en fait, le phénomène de discrimination, en tout cas d'attaque contre la discrimination, s'est déplacé. C'est plus sur l'entrée, c'est sur le contenu des cours. C'est-à-dire que depuis la discrimination positive, qui d'ailleurs à l'époque avait été votée par la droite américaine, par les Républicains, par Nixon, et qui était contestée d'ailleurs par les groupes qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelait les groupes racialistes séparatistes. Eux étaient contre la discrimination positive. Eh bien, de cela, on est passé à une sorte de cancel culture, mais au sein même de l'université. C'est-à-dire que la discrimination, désormais, était combattue sur les cours, sur les programmes, sur les professeurs. On va commencer à étudier, par exemple, on va ausculter les statistiques ethniques, puisque les Américains font ça, pour savoir quelle était l'université la plus inclusive ou la moins inclusive. Bref, on est passé de ce qui était finalement l'idée, et après tout, à peu près normale, de groupes de gens qui voulaient s'intégrer à une culture commune. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Ce sont des gens qui veulent désintégrer cette culture commune. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils militent à l'université.
Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, au fond, que la cause palestinienne, qui se joue à des milliers de kilomètres, notamment de New York, soit aujourd'hui un combat prioritaire pour ces étudiants? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il représente, ce combat, au fond?
Dans les phénomènes de contestation, les Américains, enfin les étudiants qu'on voit aujourd'hui, ont toujours cherché à finalement essayer de défendre ce qu'ils appellent l'opprimé. Alors ça pouvait être tantôt le Vietnamien pendant la guerre du Vietnam, ouais, le descendant des esclaves. Aujourd'hui, c'est le Palestinien, voilà, qui devient la figure du dominé qu'il faut absolument défendre. Puis avec une dernière chose, simplement parce qu'il y a une grande spécificité américaine dans l'histoire que tissent les États-Unis avec Israël. Il y a une histoire qui est unique au monde. Ce qui explique pourquoi, qu'ils soient démocrates ou républicains, ils ont toujours soutenu Israël. C'est cette croyance évangéliste, et les évangélistes sont très puissants en Israël, ils financent des travaux d'archéologie, ils financent la reconstruction de nombreux quartiers, parce qu'ils sont convaincus dans leur théologie qu'ils ont besoin d'Israël pour la fameuse conversion avant la fin du monde. Donc, Je pense aussi que les étudiants américains qui ici sont dans leur agitation contestent à la fois en effet l'État d'Israël et à travers cela, sans doute, la politique de soutien que mène Washington.
Florence Roys.
Oui, dans ce que vous dites, monsieur, vous me faites penser au livre de Philip Roth, La Tâche, vous savez, qui était paru en 2002 en France, mais 2000 aux États-Unis, où ce professeur d'université, qui est quasiment à la retraite, est accusé de racisme et poussé à la démission. Donc, manifestement, c'est pas tout à fait récent, finalement, ce phénomène que vous décrivez. Et par ailleurs, c'est vrai que la semaine dernière, je me souviens que l'envoyé spécial de CNews nous disait que ça a l'air très spectaculaire, mais ça reste quand même relativement marginal.
C'est marginal parce qu'on est quand même dans des universités qui sont extrêmement restrictives sur le plan de l'accès. Columbia, c'est 2000 dossiers scrutés et un seul pris sur 2000. Donc voilà. Et puis il y a le barrage financier, c'est pas gratuit. Donc évidemment, ça concerne une grande minorité et qui en plus... ne gêne pas tant que ça le pouvoir politique, parce qu'il suffit d'aller sur le site de Columbia, ils détestent autant Trump que Biden. Hein. Ils les accusent tous les deux de toute façon de collaboration avec l'État d'Israël. Donc oui, c'est un phénomène qui est ultra minoritaire, mais qui a une caisse de résonance extraordinaire.
Donc une minorité agissante, quoi, en quelque sorte.
Raphaël Zamil.
Oui, Jean-Marc Albert, vous nous avez expliqué, vous nous avez démontré comment la figure du Palestinien était devenue la figure... du nouvel opprimé. Comment vous expliquez que, à l'inverse, la figure du juif est devenue celui du nouvel oppresseur?
Parce que on a une bascule qui est liée à un des substrats du wokisme, qui est ce qu'on appelle le décolonialisme. C'est vraiment là, on touche au cœur, parce que le wokisme peut paraître comme ça un peu nébuleux. Le décolonialisme, c'est cette idée que la colonisation même terminée, les résidus colonialistes que nous avons en nous, c'est une espèce de refoulé que nous aurions à nous, un impensé, perdurent toujours. Et dans cette, on va dire, taxinomie du dominant, le juif apparaît, enfin en tout cas l'israélien ici, au même titre finalement que l'européen, que l'occidental, comme la figure du colonialiste refoulé. Il est, finalement, il perpétue d'une certaine manière ce que les Européens avaient lancé à la fin du XIXe siècle, si on prend uniquement la colonisation contemporaine, c'est-à-dire un phénomène tout simplement de domination exercée de manière territoriale. Et pour eux, il y a l'idée que, et d'ailleurs ils le disent souvent, Israël serait l'une des dernières puissances colonisatrices du monde. Donc à ce titre-là, évidemment, ça devient l'ennemi à abattre.
Alors vous parliez effectivement de la figure du Palestinien comme la figure aujourd'hui symbole à défendre, la figure de minorité à défendre, ce qui explique finalement ce paradoxe, c'est qu'à la fois on va voir ces mêmes étudiants défendre la figure du Palestinien et parfois, par extension, défendre les terroristes du Hamas et dans le même temps, défendre les causes LGBT. Et c'est là où, finalement, c'est un espèce de blougi-boulga incompréhensible.
Ah ben, je leur souhaite bon courage pour démêler tout ça, parce qu'en effet, je dis toujours qu'un militant LGBT dans la bande de Gaza devrait avoir un accueil intéressant. Vous pouvez imaginer, 15 jours avant que je n'arrive à Columbia, l'administration avait fini par interdire une soirée, au terme de nombreux débats, c'était une soirée dont le sous-titre était « Interdit aux étudiants sionistes à Columbia ». Le titre de la conférence, c'était « En quoi l'Holocauste n'est pas exceptionnel ». C'est-à-dire, là, on arrive... ce n'était pas organisé par des étudiants ultra-minoritaires, c'était des professeurs qui avaient donné... une sorte de caution, je mets ça vraiment entre guillemets, caution scientifique à ce type de conférence.
Raphaël Steinville, et puis après nous reviendrons en France et on fera la comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis. Vous nous avez dressé une photographie et ce qui se passe en France, mais avant, Raphaël Steinville.
Oui, les universités américaines sont, je crois, à 45% financées par de grands donateurs. On a vu, je crois que c'était au mois de décembre, un certain nombre d'entre eux expliquer qu'ils allaient arrêter leur chèque pour l'université d'Harvard, de Yale et du MIT. Qu'en est-il précisément pour l'université de Columbia? Est-ce qu'il y a une réaction de ces anciens élèves? Est-ce que ils vont essayer de siffler la fin de la récréation entre guillemets?
Alors, en espérant que l'argent soit le seul nerf de la guerre pour l'université, parce qu'en effet, si c'est le cas, l'argent des anciens élèves, ça c'est une grande particularité américaine. Depuis en gros le 19e siècle, à partir du moment où les universités vont cesser d'être des pôles religieux. Globalement, Harvard, Princeton, c'était la représentation de tous les courants protestants qui existaient. Et puis au 19e siècle, ce sont plutôt ce qu'on appelle des barons, des chefs d'entreprise, Stanford, Cornell, qui vont créer leur propre université et qui vont créer cette espèce de solidarité entre les anciens qui font que les anciens financent les générations suivantes. Donc ils avaient beaucoup besoin de cet argent. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça pèse dans le débat. En revanche, et c'est là que c'est, je trouve dramatique, c'est que pendant longtemps, les universités américaines n'étaient que le prolongement de la tradition européenne universitaire. Au moment où nous, en France et en Europe, à partir des années 50-60, on a commencé à s'ouvrir à la modernisation, et puis, mais 68 n'est que l'acmé, mais vous avez une volonté de détruire tout ce qui était l'héritage médiéval. Les Américains, au contraire, étaient le conservatoire de nos traditions, dans ce qu'elles avaient de meilleur. Vous avez l'image aujourd'hui du campus de Columbia qui est occupé par des tentes devant la grande bibliothèque de Columbia qui porte une dizaine de noms de tous les plus grands auteurs antiques. Il y a 25 siècles qui séparent le fronton de ce qu'ils découvrent aujourd'hui. Quelle régression.
Je vous propose à présent de traverser l'Atlantique pour voir si effectivement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est comparable à ce que nous avons vécu ces dernières heures en France. Et on va voir cette décision aussi qui interroge, décision qui scandalise même une partie de la classe politique, puisque la direction de Sciences Po, comment l'affaire s'est terminée, a décidé de céder à certaines revendications du comité Palestine de l'établissement face à cette décision. D'ailleurs, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer la mise sous tutelle de l'école. On regarde ce Juliet de Juliette Sadat et on en parle ensuite.
Le communiqué est paru hier dans la soirée. Face à la mobilisation pro-palestinienne des étudiants, la direction de Sciences Po s'est engagée sur plusieurs points revendiqués par le comité Palestine. L'organisation d'une réunion publique d'ici jeudi prochain, ouverte à toutes les communautés, et la suspension des mesures disciplinaires lancées contre les manifestants. Une décision qui fait scandale. Plusieurs élus de droite réclament la mise sous tutelle de l'école, notamment en remplaçant l'actuel administrateur provisoire.
C'est à la ministre de l'enseignement supérieur de reprendre, par le biais de quelqu'un, c'est à elle de décider qui elle doit mettre, puisque en fait l'administrateur provisoire qui est en place n'est plus légitime. On ne peut pas dire les lignes rouges ont été franchies et rien faire après. Donc il faut que l'administrateur provisoire parte, il faut que l'école soit remise sous tutelle, avec un plan très précis, pour quelques mois, et qu'après, à terme, on est un directeur.
De son côté, Gabriel Attal annonce une surveillance accrue vis-à-vis de l'établissement parisien.
Il y aura une vigilance absolue qui va se maintenir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent sur le respect des valeurs de la République et de la loi. Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique, à nos étudiants et à nos enseignants.
Quant aux étudiants, ils se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens et toute autre activité de l'institution.
Jean-Marc Albert, est-ce que ce que vous avez observé ces dernières heures donc, à Sciences Po Paris est comparable à ce qui se passe actuellement aux États-Unis selon vous? Est-ce que ce sont les mêmes ressorts? Est-ce que ce sont effectivement les mêmes problèmes? On voit que la direction s'est couchée finalement aujourd'hui.
Oui, alors ce sont peut-être les mêmes ressorts, c'est pas forcément les mêmes modalités d'application pour le retour à l'ordre. Sciences Po, ça se passait dans la rue, c'est l'espace public, on peut toujours envoyer les forces de police. Columbia, c'est un espace privé, c'est très compliqué. Et depuis 1819, on n'a pas le droit, normalement, de faire intervenir la police sur un campus américain privé. Et l'État n'a même pas le droit de faire preuve d'ingérence. Ce que Gabriel Attal a fait en allant au conseil d'administration il y a, je crois, à peu près un mois, c'est impensable aux États-Unis sur ces campus-là. Donc, la situation, on voit bien que ce sont les mêmes ressorts parce que tout simplement, Sciences Po a copié le phénomène de Columbia. Mais le mode de résolution ne sera pas le même.
Éric Degner, vous avez consacré dans votre dernier numéro une enquête justement dédiée à ces groupes islamo-gauchistes, tous ces groupes Urgence Palestine. Est-ce que ce que vous avez entendu dans la bouche de Jean-Marc Thomas concernant la situation aux États-Unis vous semble similaire à ce que vous avez observé?
Bien entendu. Et d'ailleurs, à cette question, est-ce que les facs américaines, c'est le même combat qu'à Sciences Po? Moi, je citerai tout simplement les propos de Carlos Bilongo, qui est un député de la France insoumise, et qui disait hier devant les élèves, comme à Columbia, ça donne du courage de vouloir vous lever. Columbia, il faut rappeler, il y a quelques semaines, il y avait des slogans qui disaient « rentrer en Pologne ». En Pologne, c'est-à-dire là où il y avait les camps de concentration, où des millions de Juifs ont justement été assassinés. Donc, c'est un véritable antisémitisme aujourd'hui qui se passe justement à Columbia. Et c'est ce même type d'antisémitisme qu'on retrouve aujourd'hui justement à Sciences Po sous la complicité des députés de la France Insoumise. Et c'est effectivement ce que nous avons vu avec cette enquête. On a vu d'abord effectivement cette convergence des luttes qui est claire entre des féministes et des islamistes qui revendiquent aussi d'aller aussi bien recruter des gens dans les universités qu'aller les recruter à la sortie des mosquées ou encore dans les collectifs de sans-papiers. On va voir des débats internes avec des féministes qui justement vont refuser de condamner les viols du Hamas du 7 octobre, vont être obligés du coup de repenser cette question du terrorisme, de le faire non seulement justement en Israël et en Palestine mais également en France parce qu'il y a une négation aussi de certains actes terroristes, il y a une versée complotiste par rapport à l'attentat de Mohamed Merah, etc. Et toujours une connivence avec les députés de la France insoumise, ce qui me fait beaucoup penser aux États-Unis. Vous parliez que justement Biden, là-dessus, ses étudiants ne les soutiennent pas, mais on pense tout de suite, en revanche, à la députée Alexandra Ocasio-Cortez, surnommée AOC, qui pour le coup est le fer de lance aujourd'hui justement de la lutte pro-palestinienne dans le Parti démocrate avec les étudiants. Elle est extrêmement soutenue. C'est un peu comme justement Rima Hassan et les députés de la France insoumise en France, même si, il faut le dire, pour l'instant, la France justement est plutôt en retrait pour l'instant, en fait. C'est en train justement de commencer à dégénérer alors que c'était pire il y a quelques mois justement en Grande-Bretagne. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui se passe ici, c'est cet antisionisme à chaque fois, c'est le fauné justement de l'antisémitisme. Et c'est des luttes internes qu'il y a. Nous, dans les groupes justement où ma journaliste était immergée dedans, elle voyait à quel point les débats, c'était de vouloir éradiquer Israël. Des gens disaient, il faut que l'Union européenne bombarde Israël. Ça doit être les prochains slogans des manifestations. Il y avait même des gens qui se retrouvaient en fait dépassés par leur propre base et qui leur disaient, mais même le Hamas ne souhaite pas ça. C'est-à-dire qu'on est aussi avec des personnes qui se radicalisent complètement. On en parlait tout à l'heure, on voit que l'UNEF, aujourd'hui, elle-même est obligée de se radicaliser parce qu'elle a une base, en fait, beaucoup plus à gauche. Et c'est ce qui se passe aussi avec la France insoumise. C'est pour ça que Rima Hassan aussi a une position telle qu'on a la sensation que c'est la véritable tête de liste de la France insoumise pour ces élections européennes. Et que Rima Hassan, hier, a tenu à dire « j'arrive », a tenu à faire appel à la mobilisation avec un Jean-Luc Mélenchon qui a préenregistré un message diffusé par Thomas Portes. Donc aujourd'hui, ils assument, ils embrassent tout ça. Et ce qu'on voyait aussi, c'est comment ils se retrouvent parfois à des réunions, vous parlez justement d'urgence Palestine, où Daniel Simonet était à une réunion où justement des militants disaient « eh bien il faut qu'Israël, ça soit éradiqué », parce que de dire justement « de la mer au Jourdain », c'est exactement ce que ça signifie. Et elle ne contestait pas véritablement, elle se contentait de dire « on n'a peut-être pas tous les mêmes opinions, mais on est aujourd'hui dans le même combat », parce que comme vous le disiez, en fait aujourd'hui, ils veulent toujours se présenter comme du côté des opprimés, des dominés, et étant donné qu'aussi les Juifs ne sont pas sont vus comme des blancs, ils ne peuvent pas être dans leur conception aujourd'hui des dominés, donc ce sont des dominants.
Alors est-ce que ce n'est que le début? On entendait tout à l'heure Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, nous le dire, la situation est très tendue, cela fait 10 jours que ça continue. Est-ce que ça va être le cas en France? Je vous pose la question, Jean-Marc Albert, dans un instant, mais je voulais qu'on entende Elisabeth Badinter, qui s'est exprimée justement sur ce qu'elle a pu observer à Sciences Po Paris, et des propos qui font écho à ce que vous venez de dire, Eric Tegner. Écoutez.
Jamais j'aurais pensé que tous ces jeunes gens seraient à ce point antisémites. Et l'antisémitisme renaît, se développe tous les jours grâce à eux. C'est un oubli complet de l'histoire, des faits. On dit le contraire de ce qui est, on ment comme tout. Oui, je comprends très bien que des jeunes gens prennent parti pour les Palestiniens. Je le comprends très bien. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'on est dans une guerre symbolique, mais une vraie guerre quand même, avec les Juifs. Ça, c'est pas possible. Et ça montre à quel point ils sont nuls en histoire. Aucune, sérieux de penser, c'est n'importe quoi. Ce qui en dit long aussi sur nos universités et nos écoles.
Nul en histoire. Voilà ce que dit Elisabeth Badinter. Effectivement, Jean-Marc Albert, est-ce que effectivement ce mouvement-là, ce n'est que le début, selon vous, en France, est-ce qu'il pourrait se tendre à l'image de ce qui se passe aux États-Unis? Quelle est votre vision?
Si je peux apporter un soupçon de nuance à ce qu'a dit Mme Badinter, qui donne l'impression que le mouvement étudiant gauchiste, on va l'appeler comme ça, est devenu antisémite. En fait, vous avez là une fraction de la gauche qui renoue avec un antisémitisme révolutionnaire, on va dire, extrêmement lointain, qui puise ses racines chez Proudhon, la haine du juif comme celui qui est accapareur de richesses, celui qui est accapareur de pouvoir, celui qui tire les ficelles avec une main invisible, etc. Il n'y a rien de neuf, malheureusement. Simplement là, cet antisémitisme a pris comme socle la Palestine pour s'exprimer. Mais vous avez un vieux fond à gauche antisémite extrêmement lointain qui remonte même à la Révolution française. Hein, au moment du débat sur le statut des minorités et des juifs, le front de gauche, entre guillemets, est extrêmement réservé à leur donner les titres de citoyenneté. Donc il y a quelque chose qui remonte à très loin. Et c'est peut-être ce qui fait la vraie différence avec Columbia, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé sociologiquement. Et c'est pour ça que le terme d'antisémitisme à Columbia, je le prendrai avec parcimonie, je parlerai plutôt, comme l'a dit Eric, d'antisionisme, parce que vous avez énormément d'étudiants juifs qui ont épousé la cause palestinienne.
Beaucoup plus aux États-Unis, c'est ce qu'on a observé, qu'en France, effectivement.
Par rapport à Sciences Po, il y a deux réalités sociologiques assez différentes, et ça m'a frappé de voir ces étudiants soutenir la Palestine, mais surtout soutenir des mouvements qui sont profondément anti-sionistes.
Et vous l'expliquez comment, d'ailleurs, cette différence, Jean-Marc Albert?
Ben peut-être parce qu'il y a une communauté juive extrêmement importante à New York, parce que je ne peux pas décliner ça sur l'ensemble des universités. Et puis, encore une fois, parce que la tradition antisémite est beaucoup plus ancrée dans le vieux monde européen, historiquement, qu'aux États-Unis. À mon avis, c'est là que se situe la différence.
Et du coup, pour la suite du mouvement, je reviens sur ma question, je vous donnerai la parole après Florence Wass, mais pour la suite du mouvement, comment est-ce que vous observez les choses pour la suite?
Bah, manifestement, Sciences Po a compris ce qu'il fallait faire, c'est abandonner le terrain.
Voilà. Abandonner le terrain, oui.
Pour les États-Unis, ce sera, à mon avis, plus compliqué.
Ce qui peut-être, permettra aux étudiants français de recommencer. En tout cas, c'est peut-être le message envoyé. Nous y reviendrons plus tard. Florence Wass.
Oui, sur Sciences Po, la différence, il me semble, entre Sciences Po et les universités américaines, quand vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vois pas le rapport, en fait, les États-Unis avec le colonialisme. Parce que quel rapport ont-ils, avec le colonialisme? Autant nous, en Europe, il y a une histoire coloniale, autant les Américains n'ont pas d'histoire coloniale, que je sache.
Ah, ils vous diront que si? Ils vous diront qu'ils ont fait la colonisation de l'intérieur, que la conquête de l'Ouest, c'est une colonisation intérieure qui a provoqué ce qu'ils appellent le génocide des Indiens. D'accord. Donc eux aussi ont ce... Mais c'est vrai que c'est étrange,
mais
parce qu'eux-mêmes sont une colonie. On est tout à fait d'accord.
Ça n'a rien à voir. Autant on peut expliquer certaines choses
Bien sûr.
France parce qu'il y a un passé colonial et que je pense qu'il y a des espèces de similitudes, d'inventions de similitudes sur le passé colonial de la France. Autant aux États-Unis, on ne comprend pas très bien. Ce que je voulais dire sur c'est que on s'aperçoit qu'il y a un facteur de mimétisme effectivement américain, mais c'est surtout beaucoup l'expression d'une grande inculture, d'une grande médiocrité. C'est vrai ce que dit Madame Badinter, c'est extrêmement inquiétant en fait sur ces élèves. Comment ont-ils été recrutés? Comment sont-ils rentrés dans cette école? Et le niveau des universités et le niveau de la jeunesse. Pardon, c'est pas pour stigmatiser, mais moi qui suis amenée de temps en temps à recruter des stagiaires, comme tous mes confrères, avocats, des étudiants en droit, des étudiants à l'école d'avocats, le constat quand même qu'on peut faire, c'est que d'une très grande baisse de niveau de la culture générale.
On a tiré vers le bas.
Et de la culture en général.
Mais Jean-Marc Albert l'a évoqué, c'est la discrimination positive qui a été mise en place il y a quelques années a accéléré ce mouvement.
Je ne sais pas si c'est la discrimination positive qui est à l'origine de tout cela, mais en tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est vraiment une très grande baisse de niveau intellectuel, de culture, etc. Et de ce fait, les revendications des élèves de Sciences Po sont à la mesure de cette ignorance. Quand on voit que sont brandies, vous savez, les mains rouges qui sont...
Oui, on a vu cette photo.
Voilà, ces fameuses mains rouges. Ils ne savent même pas ce que c'est, en fait. Ils ne savent même pas ce que... En fait, c'était les mains rouges brandies par les assassins de deux soldats israéliens en 2000... à Ramallah, je crois,
oui, c'est ça.
Qu'ils ont, mais pire que torturés, ils les ont déchiquetés, ils les ont coupés en morceaux, je crois, ils les ont étripés. Et puis ils sont sortis de là, en brandissant les mains rouges, victorieux de cet assassinat atroce de ces soldats israéliens.
Et nous avons vu ces étudiants de Sciences Po avec ces mains rouges, justement, brandir, et voilà, ils ne savaient pas...
Donc
pour
c'est,
la plupart,
dire
ce
c'est dire le niveau.
Et Éric Tegner, il nous reste un peu plus de deux minutes et vous aurez le mot de la fin, Jean-Marc Albert.
Si je peux juste mettre une nuance là-dessus, moi je ne suis pas vraiment favorable ou à l'aise avec le fait de considérer qu'ils sont dans ce camp-là uniquement parce qu'ils ont un manque de culture. Aujourd'hui, ils sont dans ce camp parce qu'ils détestent la France. Et si d'ailleurs ils arrivent, et justement nous dans notre enquête, notre journaliste a fréquenté notamment un prédicateur islamiste, fiché S pour islamiste, qui s'appelle Elias Dimsalen, qui en fait arrive à parler, y compris à des féministes, à des éco-activistes, à des étudiants ce type d'université de Sciences Po, parce qu'il est extrêmement construit aujourd'hui. Oui. Les prédicateurs islamistes en France arrivent justement à s'ingérer dans ces mouvements, dans ces universités, parce qu'ils ont une vraie logique, ils ont une culture, ils sont extrêmement intelligents et ils jouent de cette culture. La véritable différence qu'ils ont, c'est qu'ils détestent la France, qu'ils la haïssent, qu'ils haïssent justement l'histoire coloniale, etc. Et tout cela sous la complicité aussi, il faut le dire, de nos responsables politiques, parce qu'on a quand même un président de la République qui lui-même disait lors de sa campagne électorale de 2017 que justement on avait la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc derrière, il y a un terreau aussi qui a été favorable. Ça ne date pas du 7 octobre, y compris par nos élites universitaires qui, peut-être à Sciences Po, ils ne sont pas forcément à l'aise là-dessus, mais même aujourd'hui, ils cèdent comme ils ont cédé depuis des années le terrain.
Enfin, en même temps, pardon, juste pour dire une chose, c'est que Gabriel Attal, il y a une semaine, a reconnu que l'entrisme islamiste était très prégnant dans les écoles et dans les universités.
Dans ce cas-là, je l'invite à faire la même chose que le président de la région.
Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. On va remercier Jean-Marc Albert. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, historien, conférencier notamment. À l'Université de Columbia à New York. Merci de nous avoir éclairés sur ce qui est en train de se jouer actuellement, à la fois aux États-Unis, mais également en France. Il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Simon Guillain est avec nous. Les toutes dernières informations avec vous, le Flash Info.
Bonsoir cher Olivier et bonsoir à tous. En déplacement dans la Manche ce samedi, Gabriel Attal a annoncé une série de mesures pour venir en aide aux agriculteurs. Le Premier ministre a notamment promis la présentation début mai de la version définitive du plan de réduction des pesticides. Le chef du gouvernement a également annoncé l'accélération de 100 projets de stockage d'eau dès cette année. Un jeune homme de 23 ans condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir frappé un brancardier aux urgences. Les faits se sont déroulés le 6 avril dernier devant les urgences de Challans situées en Vendée. Il a donc reconnu avoir frappé un brancardier car son père et son cousin qui étaient grièvement brûlés avaient tout simplement patienté trop longtemps pour être pris en charge. Et puis le Belém a quitté la Grèce direction la France. La flamme olympique se trouve à bord de ce célèbre trois-mâts tricolore, fleuron du patrimoine maritime français. Le voilier est attendu le 8 mai prochain à Marseille où commencera donc le relais de la flamme jusqu'à la cérémonie d'ouverture à Paris. Cher Olivier.
Merci beaucoup, mon cher Simon. Nous décryptons, analysons donc l'actualité jusqu'à minuit pour vous accompagner autour de ce plateau, Maître Florence Roisse, Raphaël Steinville et Éric Tegner. Et à la une ce soir, les terroristes du Hamas qui ont donc diffusé une vidéo en fin d'après-midi montrant 2 otages israéliens enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël puis emmenés à Gaza. Les 2 otages se présentent comme étant Kate Siegel, 64 ans, Omri Miran, 47 ans. Le forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Les précisions d'Harold Iman.
Les otages enlevés tous deux le 7 octobre sont Keith Siegel, 64 ans, américano-israélien, et Omri Miran, 47 ans, israélien. le Forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Le groupe terroriste Hamas avait préalablement, le 24 avril, diffusé la vidéo d'un autre américano-israélien de 23 ans, Hersh Goldberg-Pauline. L'on ne voit pas qui est derrière la caméra, dans la salle. Il s'agit là de la scénarisation typique des groupes terroristes qui contraignent leurs captifs à faire des déclarations forcées. Dans cette manipulation du Hamas, un message émerge. Les otages sont obligés de dire qu'ils souhaitent que le gouvernement de Benjamin Netanyahou conclue un accord pour le retour de tous les otages avant la fête nationale israélienne le 14 mai. En effet, le Hamas est en très mauvaise posture militairement. Le gouvernement israélien a annoncé son intention de mener une opération majeure sur la localité de Rafah, dans la bande de Gaza, là où s'est retranché le Hamas avec des otages qu'il utiliserait comme bouclier humain. Rappelons que plus de 250 personnes ont été enlevées le 7 octobre et 129 restent captives à Gaza, dont 3 Français. 34 personnes sont mortes selon le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet.
Maître Florence Roisse, on l'entendait, le texte a vraisemblablement été dicté. Ces deux otages disent avoir vu les manifestations pour la libération des otages et demandent aux protestataires de continuer. On voit bien le jeu des terroristes du Hamas derrière, une pression psychologique pour que l'armée israélienne ne poursuive pas son offensive, notamment sur Rafah.
Oui, c'est la guerre des images, la guerre psychologique qui est menée depuis le début par le Hamas. On l'a vu à plusieurs reprises, même quand certains otages ont été libérés. Vous vous souvenez, on en libère, on ne les libère plus, on en libère deux, on n'a pas les noms, on donne les listes des noms. Vous voyez, il y a eu cette espèce de guerre comme ça, psychologique, qui fait partie finalement de la tactique, de la méthode du Hamas, pour faire pression. Mais de toute façon, le Hamas, il faut bien qu'il sache une chose, et je pense qu'ils le savent bien, c'est qu'il n'y aura de cessez-le-feu qu'à partir du moment où tous les otages seront rendus à l'État d'Israël. Et je trouve que c'est plutôt logique. Donc quand on entend des revendications ça et là en disant il faut un cessez-le-feu, etc., il est bien clair que ce cessez-le-feu ne peut intervenir qu'à partir du moment où les otages seront rendus.
Et effectivement, 133 otages toujours à Gaza, Rafael Steinville, dans les mains du terroriste de Hamas. Et parmi eux, seuls 95 sont présumés vivants. Selon de nombreux analystes, ce chiffre d'ailleurs pourrait être bien moindre. Effectivement, on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que le gouvernement israélien finalement cède à cette pression psychologique. Il faut que les otages soient rendus avant toute discussion possible. C'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui.
Oui, mais d'ailleurs, ces vidéos s'inscrivent, c'est-à-dire que des négociations aujourd'hui ont lieu au Caire, en Égypte, et se poursuivent entre Israël et le Hamas pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu et la libération de tous les otages. Ces vidéos, elles font partie de ces bouts donnés par le Hamas pour laisser entendre que les otages seraient, à défaut d'être tous en vie, en tout cas, ils en ont un certain nombre qui sont en vie, et donc mettre la pression sur le gouvernement israélien, sur les familles qui, on le comprend à raison, sont désireuses de pouvoir voir leurs proches et sont dans une impatience depuis le 7 octobre que d'un dénouement. Donc c'est une pression continue. Et effectivement, oui, c'est un supplice. Mais là où je vous rejoins, c'est que ce cessez-le-feu ne peut se conclure que sur la base de la libération des otages. Mais ça fait partie de ce qui est en train de se tramer depuis plusieurs semaines maintenant, que ces négociations continuent. Et elles continuent malgré tout, même si c'est insupportable pour beaucoup d'entendre que le gouvernement israélien, par l'entremise des Américains, de l'Égypte et du Qatar, négocie avec le Hamas, c'est aussi cette réalité, bien sûr.
Et nous pouvons souligner, puisque nous parlions de Sciences Po, du blocage de Sciences Po Paris, et nous allons y revenir là encore à présent, mais nous pouvons souligner que parmi les manifestants hier, pas un mot pour les otages. C'est-à-dire que d'un côté, ils parlent de paix, et en même temps, pas un mot pour les otages détenus, les 133 otages.
Si je peux me permettre, il y a quelque chose de très curieux, même de paradoxal, c'est-à-dire que ces mêmes militants qui se présentent comme des militants de la paix sont des activistes qui scandent des slogans qui nient Israël, ils sont en fait, ils ne sont pas du tout pour une solution ni de paix ni une solution à deux États. Ils sont pour une négation, pour la disparition de l'État d'Israël, d'où le slogan de la rivière à la mer.
Et une extrême tension, nous l'avons vu hier sur la voie publique devant Sciences Po Paris, et le comportement verbal des députés de la France Insoumise. Notre équipe hier qui souhaitait une interviewé Émeric Caron avec une autre équipe de télévision, s'est fait prendre à partie par des manifestants et depuis, on va l'évoquer, eh bien, Émeric Caron ne cesse de réagir, notamment sur les réseaux sociaux. On en parle, mais avant, on va regarder cette séquence.
Tu as laissé vous dégager, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. BFM pareil, mais partez, partez en fait. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez ces lignes, sérieusement, mais partez, vous n'avez pas de
C'est nous qui sommes ici, on les dégage, ils ne sont pas les bienvenus. Il n'y a que de la mer sur nous. Ils nous traînent de terroristes. Cassez-nous, c'est nous là. Vous n'êtes pas les bienvenus ici.
Alors une situation que nous dénonçons sur notre antenne depuis hier, la liberté de la presse effectivement ne peut pas être à géométrie variable, c'est d'ailleurs l'objet de l'édito d'Eliott Deval ce matin, écoutez-le.
Il y a tant à dire au lendemain du blocus de Sciences Po. Le malaise d'abord à la lecture du communiqué welbeckien de la direction suspendant les procédures disciplinaires engagées depuis une semaine contre les étudiants qui ont fait de l'établissement une ZAD. L'incompréhension bien sûr, une rue bloquée pendant plus de 10 heures, des députés LFI reçus en majesté se mettant face à des policiers voulant procéder à l'évacuation. À l'Arc de Triomphe, les agriculteurs n'avaient pas eu la chance des militants présents rue Saint-Guillaume ce vendredi. La honte aussi lorsqu'une équipe de CNews est prise à partie sous les yeux du député Caron. Le représentant de la Nation, ancien journaliste, a laissé son courage boulevard Saint-Germain, disant timidement pas de violence à deux reprises. Émeric Caron a été le premier témoin des menaces, des insultes subies contre notre jeune journaliste Audrey, ainsi que Raphaël. Il aurait pu s'interposer, demander à la foule d'exfiltrer ce dangereux manifestant. Non, Émeric Caron a regardé nos équipes reculer, se mettre à l'écart pour éviter les coups sous les applaudissements de la foule. Triste vendredi au pied de Sciences Po. Mais en réalité, est-ce vraiment surprenant ?
Un édito de notre confrère Eliott Deval qui n'a absolument pas plu à Émeric Caron. Il a réagi ensuite, alors dans un message long. Nous allons prendre le temps de le lire. Vous êtes vraiment, vous et vos amis de CNews, l'ali du journalisme. Hier, lorsqu'une personne est intervenue pour demander à l'équipe de CNews de partir, je me suis interposé en disant à cette personne de se calmer. Pas de violence, m'entend-on répéter sur la vidéo, mais aussi en plaçant mon bras devant l'équipe de CNews pour la protéger, tandis que la personne qui était intervenue voulait faire baisser la caméra. Ensuite, la foule a décidé que l'équipe devait partir en raison notamment de la manière dont CNews insulte chaque jour les partisans de la paix à Gaza, et plus généralement parce que CNews est une chaîne de fachos, ce en quoi je soutiens cette analyse. Je comprends parfaitement cette réaction de la foule d'étudiants. Le journaliste n'a jamais été molesté et l'équipe est partie sans être physiquement menacée. Votre titre est putaclic, votre récit est mensonger, vous êtes bien les minables que les étudiants vous reprochent d'être. Quant à moi, j'ai bien un regret, alors que je boycotte votre chaîne d'extrême droite depuis longtemps et que je milite pour qu'elle disparaisse de la TNT gratuite, j'aurais dû être plus vigilant, refuser de répondre à cette journaliste de CNews qui laisse se diffuser cette fake news à mon sujet et qui autorise un animateur de foire, Eliott Deval, à m'insulter. Il n'y a juste rien à attendre, strictement rien, d'une chaîne d'opinion raciste qui se transforme en objet médiatique, puant tout ce qu'elle touche. Les étudiants de Sciences Po hier ont eu bien raison. Ces news dégagées. Éric Tegner, votre réaction.
Déjà, Émeric Caron est un lâche. C'est un lâche parce que déjà, s'il se retrouve avec une journaliste, une femme, qui est en position d'infériorité parce qu'il est uniquement avec son collègue, ils sont deux face à une foule d'une centaine de personnes. Il y a un jeune homme de 23-24 ans qui cherche en fait à l'agresser. Et si pour Émeric Caron, s'interposer face à l'agression d'une femme qui est en minorité, c'est simplement lever le bras, je trouve qu'il y a une véritable lâcheté. Et dans ce communiqué, in fine, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande pardon à ce jeune qui lui dit « Mais pourquoi vous répondez justement à CNews ?» Il se couche et il reprend leur slogan à chaque fois. Ils disent toujours « La rue, c'est pas pour les fachos ». Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas le droit de citer. On le sait très bien dans Paris à quel point on a vu aussi comment Stanislas Rigaud, le patron de Génération Zemmour, le week-end dernier s'est fait agresser par ce même type de jeunes. Et donc Aymeric Caron aujourd'hui, il légitime encore une fois cette violence parce qu'étant donné qu'il va considérer que ce sont des fachos, on peut l'accepter. Mais ça en dit long sur une chose. Vous savez, à chaque fois on explique que les responsables politiques, eh bien, toute façon, ils font tout pour la communication, que si à un moment donné ils sont devant les caméras, ils vont bien essayer d'avoir un comportement qui soit quand même un minimum exemplaire. Et que c'est derrière qu'il y a de l'hypocrisie. Là, on est sur un tel renoncement. Ils sont tellement tenus par ces populations radicales que même face à des caméras de CNews où ils savent très bien que ça sera diffusé, ils se couchent. Ils ne se couchent pas devant quelqu'un qui a 40 ans, qui est costaud. Ils se couchent devant un jeune qui est plus petit que lui. Il aurait pu à un moment donné agir comme un homme, comme quelqu'un qui va le défendre et il ne le fait pas.
Et comme un député de la République également, Raphaël Steinville. C'est-à-dire que ce message transpire la haine. On voit bien, ce n'est pas ce que nous attendons, ce n'est pas ce que nous étions habitués à voir de nos politiques ces dernières années. C'est un phénomène aussi nouveau, cette haine qui transpire chez un député de la République.
Oui, mais en fait, je pense qu'elle a pris une ampleur nouvelle, mais ça fait quand même des années que ça dure. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, je dirais que dès 2002 et peut-être même encore avant, mais le théâtre de l'antifascisme dénoncé par Lionel Jospin lui-même lorsqu'il a vu ces centaines de milliers de jeunes lors de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle qui défilaient au cri de « à bas les fachos », ce sont les mêmes. Et il n'y a pas de menace fasciste, la vérité. C'est qu'en fait, tout ce qui est différent, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, appartiennent finalement au cercle de l'infâme. Et c'est là où c'est très grave, notamment le communiqué, c'est-à-dire que la lâcheté, la couardise d'un député qui refuse finalement de protéger ses journalistes. Tout le monde n'a pas la qualité du courage. Moi, je ne lui en veux même pas. En revanche, ce qui est encore plus grave, c'est son communiqué. C'est qu'en fait, vraiment, et ça a été dit par Eric, il vient légitimer, finalement les violences qui ne cesseront de se répandre dès lors que ceux qui sont en face d'eux, qui tiennent un micro de CNews, mais demain ce sera un autre organe de presse ou ce sera un autre parti.
Il n'y avait pas que CNews hein, d'ailleurs.
Non, il y avait BFM qui interviewait également
BFM, exactement.
Aymeric Caron, mais tous ceux qui ne pensent pas comme eux rejoignent le camp des fascistes sous prétexte de décrire cette réalité.
Et avec derrière des cibles aussi dans le dos de ces journalistes, et pas seulement, et c'est ça qui est profondément pénible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le débat. Aujourd'hui, les cibles, elles sont dans le dos de journalistes, effectivement, de tous ceux qui ne sont pas de la France insoumise, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, et ça, c'est profondément grave, pénible, maître.
Oui, de toute façon, quand on regarde le compte Twitter d'Aymeric Caron, on se rend bien compte hein, qu'il a l'obsession d'Israël. C'est une obsession, en fait. J'ai envie de dire, c'est l'obsession anti-juive, quoi, en gros. Ça transpire de partout. Lui et ses amis de la France insoumise. Donc, ils ne peuvent pas le contester. Ça. Alors, vous allez avoir un Jean-Luc Mélenchon qui prétendait, vous savez, quand le président de l'Université de Lille n'a pas voulu que leur conférence ou leur meeting, en fait, se tienne, dire « mais en fait, c'est un collabo, nous ne sommes pas antisémites ». Ils passent leur temps, si vous voulez, à essayer de revendiquer qu'ils ne sont pas antisémites, mais en fait, tous leurs faits et gestes, tous leurs propos sont antisémites. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le double lien. Mmh. Vous savez, c'est face... je gagne et pile, tu perds. Vous voyez, c'est ça le double lien. C'est exactement ça. Ce sont des gens qui sont dans les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire qu'ils ne sont pas antisémites, mais en réalité, tout ce qu'ils disent est antisémite. Tout ce qu'ils disent est de l'antisionisme. Ils stigmatisent sans arrêt, ils attaquent sans arrêt Israël. C'est hallucinant.
Il y a un autre point aussi qu'il faut noter, on le relève même pas tellement on y est habitué, c'est que ce jeune en fait qui agresse justement la journaliste de CNews, il est masqué. C'est-à-dire qu'en fait, on rejoint cette logique aussi de l'antifa. Imaginez Marine Le Pen si elle était dans cette même situation avec à côté des jeunes qui seraient cagoulés, qui commenceraient à attaquer les journalistes. Mais d'ailleurs, ça ne s'est jamais vu, ça.
Ça ne s'est jamais vu.
Et donc, ils se retrouvent, la France insoumise, on le sait très bien. Ils ont des gens de la Jeune Garde, qui est un groupe antifa violent, qui revendique justement ce type d'action, ce qu'ils vont considérer comme des fachos. Et pour eux, les fachos, c'est y compris, par exemple, les jeunes avec Macron, qui ont été agressés il y a 6 mois, par exemple, lors d'un tractage. Donc, encore une fois, c'est pas juste que certains peuvent appeler l'extrême droite. C'est tout ce qui est à leur droite. On sait que ces jeunes-là, ils font partie du service d'ordre de la France insoumise. On sait qu'un Carlos Bilongo, tiens, encore lui, il était à cet endroit-là, eh bien, fait justement des entraînements de boxe avec ces gens-là qui, derrière, bah, bien entraînés, ils vont justement aller agresser des personnes. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça aurait pu aussi dégénérer. Parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Et je pense que ce soir, ces jeunes, ils sont en train de se dire, on aurait peut-être dû aller plus loin.
Et la prochaine fois, ils iront peut-être plus loin. Alors, ce qui réchauffe le cœur aussi, c'est que Audrey Berthaud, la journaliste donc en question, a reçu des centaines et des centaines et des centaines de messages de soutien. Donc, les Français, ils ne sont pas dupes. Je vous propose que nous revenions, nous l'avons un peu abordé tout à l'heure, à cette décision qui scandalise, je le disais, une partie de la classe politique. La direction de Sciences Po a donc décidé de céder à certaines revendications du comité Palestine de l'établissement. Nous allons pouvoir voir le communiqué de Sciences Po et on apprend donc qu'après ce blocage, il y aura un débat interne qui va être organisé et que les procédures disciplinaires contre les manifestants, eh bien, elles sont suspendues. La direction de Sciences Po s'est donc clairement couchée pour une partie de la classe politique et bien de au-delà. Et la ministre de l'Enseignement supérieur, elle a remercié la direction de Sciences Po dans un tweet. Nous allons le voir. Je remercie M. Jean Basser pour son action à Sciences Po, qui doit rester un lieu d'études, de respect et de débat serein. Honte à ceux qui instrumentalisent les passions. Leur cynisme est aveugle. Alors aujourd'hui, le Premier ministre Gabriel Attal a lui aussi pris la parole et il a voulu montrer sa fermeté. On écoute.
J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de me rendre à Sciences Po devant le conseil d'administration pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école, qui est une école importante, évidemment, pour notre pays. Et je le dis, je l'ai dit à l'occasion et je le redis ici, nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi et sur le respect des valeurs de la République. Et la vigilance sera totale dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour que le respect de la loi, des valeurs de la République, soit au cœur de la mission de l'administrateur provisoire qui a été nommé, mais aussi évidemment de la future direction qui sera nommée à l'issue du processus de sélection.
Raphaël Saint-Ville, nous nous souvenons de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau au mois de mars qui avait dit les lignes rouges ont été franchies déjà à Sciences Po. Elle le redit vendredi matin. En même temps, elle félicite la direction de Sciences Po finalement pour s'être couchée, puisque c'est ça dont il s'agit précisément. Gabriel Attal annonce lui sa fermeté pour la suite. Voilà, on ne comprend pas bien la posture ou comment va pouvoir finalement répondre le gouvernement à ce qui est en train de se jouer.
Aujourd'hui, le gouvernement, au mieux, a des mots relativement forts, c'est Gabriel Attal, des mots relativement forts, mais qui ne sont pas suivis des faits, qui voire même sont inconséquents, c'est Sylvie Retailleau, parce que si des lignes rouges ont été franchies, il faut pouvoir en tirer des conclusions. Aujourd'hui, mis à part finalement cette achetée, une sorte de paix universitaire, via cet abandon en race compagne de la direction de Sciences Po qui suspend les procédures disciplinaires engagées contre certains élèves de Sciences Po, c'est très grave ce qui se passe. Oui. Un geste fort eût été peut-être déjà d'écarter un certain nombre de ces étudiants qui empêchent leurs autres camarades de pouvoir assister aux cours et qui, par ailleurs, ont tenu des propos pour certains inqualifiables. Et ça, pour l'instant, on est dans un grand flou.
Mais
c'est retardé à plus tard parce qu'il y a une peur qu'après Sciences Po, d'autres universités embrayent.
Et ça va être le cas s'il n'y a aucun, Maître Florence Roy, ça sera le cas. Oui. On peut s'y attendre. Maître Florence Roy, c'est Éric Tegnérant.
Non, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que j'essaye de réfléchir, de me mettre à la place de la direction de Sciences Po.
Ouais.
Manifestement, c'est un administrateur provisoire qui est en place. Il s'agit peut-être de faire redescendre un peu la tension, peut-être d'avoir aussi une action pédagogique vis-à-vis de tous ces jeunes qui sont finalement endoctrinés et qui sont désinformés et qui sont utilisés par, on l'a vu, la France Insoumise, en fait, qui essaye de leur bourrer le crâne à coups d'idées qui sont complètement à côté de la plaque.
Mais là, on n'est pas dans le dialogue,
oui,
si je peux me permettre.
Mais attendez, on, peut-être que c'est... J'y pas, enfin, pour moi, je ne vois pas là de la soumission. Je vois, au sens Welbeck, comme disait ce matin votre journaliste, je ne pense pas, enfin en tout cas j'ose espérer qu'on n'est pas dans la soumission. Je pense qu'on est, on essaye de décongestionner un peu les choses, de ramener un peu de calme, et puis d'essayer d'instaurer un dialogue. Vous savez, peut-être moi, avec, c'est mon réflexe de médiatrice, j'essaye de me placer dans le cadre de lecture de l'autre, et je me dis, bon, on va essayer d'instaurer un dialogue, on va discuter, et puis on va essayer peut-être de remettre les choses et l'église au milieu du village, en disant, attendez, je pense que vous faites erreur. Et voilà pourquoi. Et on peut en discuter. On peut échanger aussi. On peut avoir des avis différents. On peut. Mais tout ça ne doit pas se faire ni dans la violence, ni dans le tumulte.
Mais quelques heures.
C'est pour ça que Gabriel Attal a raison quand il dit il faut que les lois de la République soient respectées. Il faut que tout ça se. Voilà, ils vont veiller au grain. Mais on a le droit aussi d'avoir un échange.
Mais alors, mais quelques heures après cette décision de la direction de Sciences Po, Eric Tegner, l'UNEF, syndicat étudiant, eh bien, publie un communiqué « Vous ne ferez pas taire la jeunesse ». Monsieur Attal, votre tournant autoritaire ne sera pas sans conséquences pour la jeunesse et pour le pays. L'UNEF revendique l'arrêt immédiat des interventions policières dans les lieux d'études et la fin de toute tentative de censure du débat. Si vous continuez sur ce chemin, vous et votre gouvernement serez les seuls responsables de l'escalade de la violence.
Mais l'UNEF, déjà, c'est un peu des arguments électoraux internes. Eux aussi, ils voient très bien qu'il y a une radicalisation des étudiants. Donc, ils veulent surfer dessus. C'est la logique. Moi, je trouve juste votre vision, si je peux me permettre, légèrement naïve. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on va expliquer que des cours d'éducation civique vont déradicaliser des jeunes qui, pour par exemple 45% des jeunes lycéens musulmans, considèrent que l'attaque du 7 octobre, c'était légitime. Ou ces fameux centres de déradicalisation, c'est un peu des colonies de vacances. On reçoit les djihadistes venant de Syrie, on va leur donner des cours. Et les gens qui donnent des cours sont des gens qui, de toute façon, partagent pas mal d'idées en commun. Donc moi, je trouve ça assez naïf de ce côté. Et je trouve que ce débat, c'est une blague, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va considérer que, parce que c'est l'administration qui va avoir la gestion, avec beaucoup de guillemets, de ces débats, sachant que l'administration et les profs, hein, ils sont un peu sur la même ligne aussi. Simplement, ils vont considérer qu'il ne faut pas dire les choses comme ça, qu'il faut être plutôt dans les formes, etc. Donc, mais sur le fond, ils pensent exactement la même chose. Sinon, ces jeunes n'auraient pas candidaté à Sciences Po, hein, vu comme ils sont aujourd'hui complètement fermés d'esprit.
Ils n'auraient pas été admis, parce que ceux qui ne pensent pas comme ça, ils ne sont pas admis.
Et ils n'auraient même pas voulu y aller. Donc, en fait, on se retrouve avec un gouvernement comme Sylvie Retailleau, qui va considérer que juste parce qu'elle va organiser, ça va bien se passer. Mais pardonnez-moi, on a vu ces actes de violence. Vous croyez vraiment que ça sera un débat? Vous pensez que les gens qui sont aujourd'hui sur contre leur ligne, il va y avoir massivement des gens qui vont accepter d'aller débattre, donc de se faire ficher, derrière de se faire taper. Vous croyez que énormément de juifs, on parlait des juifs notamment qui sont à Menton, qui ont peur depuis le 7 octobre parce qu'il y a eu près d'une quarantaine de propos qui justement faisaient la glorification des actes terroristes du 7 octobre, ce qui ont poussé d'ailleurs le président de la région PACA à menacer de couper les subventions. Ça, je trouve que c'est pour le coup un acte beaucoup plus ferme que les éternels débats de Gabriel. Eh bien, mais ils font ça uniquement parce qu'ils pensent aujourd'hui, c'est la vision d'Emmanuel Macron et je termine là-dessus, ils ne veulent pas qu'il se passe en France, qu'il se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, parce qu'effectivement on n'y est pas complètement. Et donc ils ne veulent pas jouer le jeu de la victimisation parce que c'est comme d'habitude, c'est l'effet des masses, c'est la logique démographique dans le pays, démographique aussi dans ce type d'université puisqu'ils l'ont choisi, ils ont voulu ouvrir Sciences Po au monde et donc au final on se retrouve avec les problématiques mondiales dans l'école qui est censée créer
les
élites.
Et nous verrons effectivement les suites de cette décision de la direction de Sciences Po dans les jours qui viennent, nous n'avons pas fini d'en parler. Je voulais vous entendre sur cette... autre prise de parole de Gabriel Attal aujourd'hui, le gouvernement a-t-il fait les bons choix pour clore la crise agricole? Le Premier ministre qui a dévoilé ce matin un nouveau train de mesures qui s'ajoute déjà aux 67 déjà présentés, alors une enveloppe de 100 millions d'euros d'aide à la trésorerie et une accélération de la construction de 100 projets de stockage d'eau ont notamment été annoncés. Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces mesures. Néanmoins, on va réécouter le Premier ministre, suivi de la réaction de Patrick Legras, un agriculteur invité sur notre antenne cet après-midi et qui réagissait aux annonces du gouvernement. Regardez.
Le dialogue avec les agriculteurs et leurs représentants, il est continu et permanent. Il y a déjà eu une première série d'engagements que j'ai pris il y a maintenant plusieurs semaines, 62 engagements. Le président de la République a également annoncé des mesures. Et ce matin, nous avons annoncé une série de 14 nouveaux engagements qui ont été travaillés avec les représentants des agriculteurs sur la trésorerie de nos agriculteurs, sur les retraites de nos agriculteurs, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Évidemment, ils ont droit à avoir des retraites décentes qui reflètent toute leur vie de travail. Et donc, on va pouvoir arriver à enfin le système qu'ils réclament, c'est-à-dire qu'on tienne compte de leurs 25 meilleures années.
Nous prendre pour des lapins de 3 semaines, c'est mort, définitivement mort. Il faudra qu'on leur répète combien de fois. Donc que l'on embrouille les responsables parce qu'ils ont des méthaniseurs, ils ont des parts dans des dizaines de sociétés, ça je veux bien, mais celui qui vide ses tripes, celui qui vide son travail de ses 60 ou 70 heures, celui qui vit de ce qu'il va vendre et qu'il faut qu'il produise, et ben ce mec-là, si on lui donne pas de solution, et ben il n'y a pas de solution, il n'y aura pas d'accord.
Bon, Raphaël Steinville, visiblement, la colère est toujours présente dans le monde agricole, mais il faut comprendre aussi que les agriculteurs veulent voir concrètement la réalité des annonces. Il y a cette dimension-là aussi, entre la prise de parole, entre les multiples annonces qui ont été faites et les conséquences sur le terrain. C'est vrai qu'il y a toujours du temps. C'est pour ça aussi que les agriculteurs restent vigilants.
Oui, ils restent mobilisés, mais il y a le drame un petit peu des agriculteurs. C'est aussi le drame de la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les interlocuteurs du gouvernement sont certes les agriculteurs syndiqués, mais dans ces agriculteurs syndiqués, on voit très bien à quel point la FNSEA est le principal interlocuteur du gouvernement au détriment d'autres syndicats qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de monter en force. Et on l'a vu pendant cette crise agricole et qui sont très loin des revendications telles que la FNSEA les porte et s'entend avec le gouvernement pour laisser entendre à une sorte de dégel du conflit et des solutions qui sont trouvées. Certes, Gabriel Attal l'a dit, 88% des engagements pris par le gouvernement ont été tenus, mais ce ne sont pas forcément les engagements tels que les agriculteurs de base les souhaitent, les attendent. Et donc, il y a une sorte de fossé entre leur représentation et puis ceux qui n'ont même pas les moyens, finalement, soit d'être représentés, soit d'avoir des syndicats suffisamment forts pour pouvoir les représenter dignement.
Voilà, décryptage complet de Raphaël Steinville, une défiance des agriculteurs vis-à-vis du politique qui fait écho également à ce rendez-vous manqué d'Emmanuel Macron jeudi dernier avec son discours à la Sorbonne. Nous en parlons dans un instant, mais avant, il est 23h30, le Flash Info. Simon Guilin nous a rejoint. Mon cher Simon, c'est à vous.
Rebonsoir, cher Olivier. Le Hamas publie une nouvelle vidéo aujourd'hui, celle de deux otages israéliens, toujours détenus dans la bande de Gaza. Ces otages demandent à Benjamin Netanyahou de conclure un accord pour une trêve avant le 14 mai prochain, jour de fête nationale en Israël. Un message livré sous la contrainte des terroristes. La galère des automobilistes va se poursuivre en Ile-de-France. L'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson ne rouvrira finalement pas le 1er mai. Aucune date n'a été fixée pour le moment puisque de nouvelles fissures ont été découvertes sur cette autoroute. 100 000 automobilistes empruntent cette portion de l'A13 chaque jour. Et puis en football, le PSG ne sera pas champion ce samedi soir après son match nul 3 buts partout face au Havre au Parc des Princes. Mené 3-1 à 10 minutes de la fin, les Parisiens ont donc finalement arraché le match nul. Le prochain match pour le PSG, ça sera mercredi et le choc à Dortmund, bien sûr, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Olivier, ici c'est
Paris.
Ici c'est Paris.
Vous n'êtes pas trop déçu d'ailleurs, mon cher Simon, par ce match nul, le PSG qui aurait pu être sacré champion de France.
Non, si on attend un ou deux jours de plus, c'est pas très grave. Je sais que vous êtes déçu par contre.
Pas particulièrement, vous savez, moi je supporte exactement le FC Nantes, vous le savez.
Oui, moi je suis Rennes.
Et vous êtes de Rennes?
Bah, c'est la Bretagne quand même. Ou Guingamp.
Bah, le derby Rennes-Nantes, toujours compliqué. nous parlions donc de cette défiance des agriculteurs vis-à-vis du politique. Il y a un instant, qui fait écho à ce rendez-vous manqué pour Emmanuel Macron après son discours à la Sorbonne, 7 ans après sa première prise de parole sur l'Europe. Dans cette même université, lors de son discours jeudi dernier, le président de la République eh bien, il n'a visiblement pas marqué les esprits. Est-ce qu'il a marqué le vôtre? Je vous poserai la question. Mais selon un sondage publié par Le Figaro, seulement 32% des Français ont écouté son allocution. Les explications signées Pierre-François Altermat et Sarah Varny.
De retour sur les bancs de la Sorbonne, Emmanuel Macron a présenté sa vision d'une Europe puissance à moins de 6 semaines des élections européennes. Un discours de près de 2 heures qui n'a pas suscité l'intérêt chez les Français.
Je ne l'ai pas regardé complètement. Ben, j'ai pensé que c'était nul. Ce monsieur, il ferait mieux de faire les choses au lieu de faire des discours.
J'avais pas trop le temps, je vous avoue. C'est surtout une question de temps.
Bah, sincèrement, moi, je ne crois plus trop à tous les discours politiques. Je pense que là, c'est les européennes. Chacun essaye de tirer l'épingle dans son jeu.
Non, pas du tout. Je ne suis pas vraiment à l'actualité. Je ne sais pas du tout.
Selon un sondage pour nos confrères du Figaro, 67% des Français n'ont pas du tout entendu parler de son allocution. Un échec sur la résonance, mais également sur le fond, puisque 66% des auditeurs déclarent ne pas avoir été convaincus. Pour la majorité d'entre eux, il s'agissait plutôt d'un discours de campagne qu'un discours sur la situation actuelle et à venir de l'Europe, alors que la tête de liste Renaissance, Valérie Ayer, est à la peine dans les sondages. Emmanuel Macron a tenté de mettre en garde contre un moment de bascule à l'échelle européenne, mais là encore, il ne semble pas avoir convaincu les Français, puisque près de la moitié des auditeurs disent ne pas l'avoir trouvé clair.
Vous faites partie certainement, Raphaël Stainville, des 32% à avoir écouté l'allocution du chef de l'État. 1h30, hein. Sur la forme déjà, 1h50, pardonnez-moi, c'était déjà très long. Un discours d'ailleurs anxiogène, l'Europe peut mourir. C'est l'une des phrases que l'on retient de cette prise de parole d'1h50, vous le rappeliez. À qui il s'adressait, selon vous, le chef de l'État ?
Non, mais c'est très intéressant que vous releviez justement cette phrase et cette dramatisation des enjeux européens. Quand Emmanuel Macron parle de, et il a raison, hein, l'Europe peut mourir, enfin la civilisation européenne peut mourir, et d'autres avant lui l'ont déjà très largement esquissé dans des livres. Je pense à Henri Guénaud, je pense à Michel Onfray qui ont parlé de ces civilisations qui sont mortelles. Mais pour Emmanuel Macron, si l'Europe peut mourir, c'est parce que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la victoire possible de la Russie se révélerait une catastrophe pour l'Europe. Moi, je pense que c'est passé à côté des vrais enjeux et des vraies raisons qui pourraient conduire à la mort de l'Europe. Je pense que la submersion migratoire et l'absence de politique véritablement sérieuse pour contenir ces flux qui ne cessent d'arriver en Europe participent de cette fragilisation aujourd'hui et peut-être demain de cette mort de l'Europe. Je pense aussi que la faillite de nos élites, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a prononcé un discours il y a 7 ans, mais combien de ses engagements ont été tenus? Il a eu de grands mots, de belles phrases il y a 7 ans, mais pour quel résultat? Et puis après, moi je pense qu'il y a si l'Europe peut mourir, c'est peut-être de la décadence de ses élites, et c'est peut-être ça le plus grand danger pour l'Europe aujourd'hui.
Alors le chef de l'État, Éric Tegnér, qui s'exprime également dans les colonnes du Dauphiné Libéré ce soir. Et il donne son avis sur le Rassemblement national dans ce contexte des élections européennes. Et voyez ce qu'il dit, le chef de l'État. Le Rassemblement national ne propose rien dans la campagne des élections européennes. Il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe et de l'euro. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Voilà, il attaque le Jordan Bardella. Il était interrogé par une douzaine de jeunes en marge de sa visite à Strasbourg. Et Yael Braun-Pivel aussi parle du Rassemblement national. Et elle, en revanche, elle reconnaît que la poussée du Rassemblement national, c'est un échec collectif. C'est ce qu'elle affirme, c'est l'échec de tous les Républicains. Voilà ce qu'elle dit ce soir.
Ah, il y a quelque chose que je comprends pas vraiment, c'est que Emmanuel Macron, il joue justement sur les peurs en permanence, tout en attaquant le Rassemblement national en disant que c'est eux qui jouent sur les peurs. Donc il essaye de mobiliser son camp en disant « Attention, le Rassemblement national, ils sont racistes, c'est l'extrême droite, ils vont tout casser. » Et dans le même temps, il dit qu'il ne propose rien. Il faut quand même savoir, en fait. Soit ils vont considérer qu'ils sont dangereux parce qu'ils vont faire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Soit donc lui-même n'est pas cohérent dans son analyse. En attendant, on est quand même collectivement capable de reconnaître que le Rassemblement national, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'ils veulent arrêter la submersion migratoire au sein de l'Union européenne. Ça, je pense que tout le monde est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Emmanuel Macron et également la gauche luttent avec tant de véhémence contre le Rassemblement national. Mais la vérité, c'est que sur 1h50, ils ne voulaient pas, comme le disait Raphaël tout à l'heure, parler de cette question de l'immigration qui pourtant aujourd'hui rassemble l'ensemble des Français. Et sur la question de l'industrie, c'est la même chose. Parce que Emmanuel Macron, il essaye de faire ce Sorbonne 2 qui est inaudible par rapport au Sorbonne 1. On se rappelle qu'en fait, il a
évoqué quand même, hein, il a eu un mot pour les Anglais, notamment après le projet de loi sur le Rwanda.
Oui, mais voilà, il a parlé aussi du pacte asile-immigration. Mais si on rentre dans le cœur de ce qu'est ce vote et sa traduction et sa philosophie, on est très loin d'une ambition à vouloir contrôler absolument nos frontières. Il y a plutôt une philosophie immigrationniste ou en tout cas pénalisant les États qui refuseraient d'accueillir les migrants candidats à l'asile.
Un dernier mot peut-être avant de découvrir la une du JDD dans un instant, peut-être mettre Roisse, selon vous, 1h50, on le disait, c'est très long hein, pour un discours, est-ce que ce temps de parole, dans le contexte des élections européennes, ce temps de parole du chef de l'État, selon vous, il devrait être décompté, comme pour les autres partis? En tout cas, l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, va se saisir de cette question à partir de la semaine prochaine.
Écoutez, ça c'est un sujet, j'avoue, je n'ai pas d'idée sur cette question-là. Je ne suis pas spécialiste de cette question-là. En revanche, sur la question du discours et du fond du discours du président de la République, c'est vrai que les Français s'y intéressent peu parce que l'Europe, c'est un peu loin de leurs préoccupations immédiates, premières. Donc c'est un peu le constat qu'on peut faire. La deuxième chose, en revanche, j'ai trouvé son discours, moi j'ai écouté sur la question de la politique internationale, extrêmement intéressante. Il a une anticipation. Il est dans une lignée gouverner, c'est prévoir. Il dit il y a des points de danger, la Russie, l'Ukraine, la Chine, l'Iran sur le point de s'armer sur le plan nucléaire. Il faut aussi qu'on réfléchisse, peut-être nous, à s'équiper. Il a fait allusion au dôme de fer qui existe, qui a de nombreuses fois protégé les Israéliens des roquettes, et ça depuis des années. Ce n'est pas juste l'attaque de l'Iran cette fois-ci. Ça fait des dizaines d'années, enfin, en tout cas, un certain nombre d'années que les Israéliens sont protégés des roquettes grâce à ce dôme de fer. Donc il a évoqué cette question stratégique et de défense.
Mais peut-être que les Français ne se sont pas intéressés à ce discours, parce que eux, finalement, le dôme de fer, cette idée de dôme de fer et de protection, ça paraît loin, puisque aujourd'hui, en France, finalement, ce sont plutôt les attaques au couteau qui font la une de l'actualité. Et peut-être que les Français attendent avant tout que le chef de l'État, le gouvernement...
Oui, mais parce qu'Emmanuel Macron adore parler de l'étranger, de l'international, parce que ça lui évite en fait de parler de politique intérieure. Mais il est en échec partout. Quand il parle, par exemple, d'industrie européenne, j'aimerais juste mettre le doigt sur un sujet, c'est que il y a deux semaines, on a appris, par exemple, le laboratoire Biogarant, justement, du laboratoire Servier, allait être acheté par les Indiens, qui sont les meilleurs amis d'Emmanuel Macron, qu'il a visité il y a un mois et demi. On se demande même si c'est pas dans le cadre d'un deal. Donc c'est ça aussi, les Français, ils entendent Emmanuel Macron dire il faut réindustrialiser, il faut avoir une souveraineté sanitaire, etc. Et dans le même temps, il y a un laboratoire aujourd'hui qui aide énormément de Français, qui va être revendu aux Indiens.
Donc ça, c'est vrai qu'on ne le comprend pas.
Il est en échec sur absolument tout aujourd'hui.
Alors, il nous reste un peu plus de 6 minutes. Je vous propose de découvrir la une du JDD avec vous, Raphaël Steinville. Une avec la GPA. La bataille a commencé. Et le témoignage d'Olivia Morel. Olivia Morel, que l'on entend beaucoup, que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, qui témoigne de son mal-être. Elle est née par GPA.
Elle est née par GPA et aujourd'hui, elle est l'une de ces voix qui porte pour combattre cette pratique. Mais dans cette une du JDD, il n'y a pas seulement ce témoignage très, très précieux, très poignant, bien sûr. Il y a également le professeur Friedman, vous savez, le père du bébé éprouvette, scientifique de renom international, qui lui-même sonne l'alarme sur finalement ce désir d'enfant à tout prix et sur les risques que cela fait peser. C'est un dossier très complet, éclairé notamment par un papier assez lumineux de Charlotte Dornelas, que vous connaissez bien, qui remet un petit peu Pourquoi aujourd'hui on parle à nouveau de GPA alors même que on pensait que ça avait été abandonné par Emmanuel Macron. Il avait dit que c'était une faute éthique. Mais il y a quand même toujours cette offensive qui est menée par un certain nombre de lobbies pour parvenir à imposer à terme la GPA alors qu'elle a été interdite cette semaine au niveau européen dans une directive contre les traites humaines. François-Xavier Bellamy a pu imposer un amendement reconnaissant que la GPA faisait partie de cette traite humaine qu'il fallait condamner.
Et la GPA strictement interdite aujourd'hui en France, Maître Roy, c'est pourtant, il y a eu un sondage donc commandé par CNews, et vous allez le voir, il y a quand même 59% des Français aujourd'hui qui sont favorables à la gestation pour autrui, 41% ne sont pas favorables, Maître Roy.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan légal, la GPA est interdite tant sur le plan civil qu'au plan pénal. Elle est réprimée. Maintenant, la directive de l'Europe a pointé la GPA quand il s'agit effectivement d'une GPA faite, j'allais dire, qui est mercantile et qui rend ses mères porteuses finalement sous l'angle de la traite des êtres humains. Mais la GPA, si on l'envisage...
De manière éthique ?
Attendez, deux secondes. Si on l'envisage, si on l'encadre légalement, si on réfléchit à la manière dont elle peut se faire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont accès à la GPA, mais qui sont ces gens ? Des gens qui ont de l'argent, des gens qui peuvent payer, qui peuvent aller à l'étranger. Et en revanche, ceux qui n'ont pas ces moyens-là sont exclus de la GPA. Vous savez, il y a quelques années, la PMA était interdite, enfin en tout cas aux femmes seules. Aujourd'hui, la PMA est légalisée. Il y a des listes entières de femmes qui veulent avoir accès à la PMA. Moi, je vais vous dire mon sentiment, c'est qu'un jour, ce jour ne sera pas très éloigné, la GPA sera légalisée. C'est normal, c'est l'évolution, c'est le sens de l'histoire.
Alors, le sens de l'histoire, mais nous commençons à avoir du recul. C'est assez intéressant ce que témoigne Olivia Morel, notamment dans les colonnes du JDD. Et nous pouvons aussi l'entendre, notamment sur les réseaux sociaux, Éric Tegner. Et c'est une femme aujourd'hui qui crie sa souffrance, qui dit arrêtons avec ce système de GPA.
Oui, elle en pleure, hein. Elle a ému pour le coup des millions de Français. Et comme le titre très bien le JDD, effectivement, la bataille a commencé. Parce que votre sondage de CNews le montre, il y a une bataille d'opinion à mener. Pourquoi ? Parce qu'aussi, l'électeur français a été habitué d'une certaine façon à aller dans votre sens, à considérer que de toute façon, c'est le sens de l'histoire qu'il faut laisser faire. Les hommes politiques, à chaque fois, ils vont considérer qu'un homme politique, il est là uniquement pour s'adapter aux gens. Et au final, il n'a plus de pouvoir. Et le pouvoir, en fait, il appartient justement à des minorités agissantes qui vont pouvoir se mobiliser, etc. J'espère pour le coup, concernant la GPA, que cette bataille justement de l'opinion va pouvoir être gagnée, parce que non, ce n'est pas rien. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Demain, pourquoi on n'irait pas partir sur l'eugénisme ? Parce qu'à un moment, si on va considérer, parce que de l'autre côté, ils vont montrer des enfants, pour le coup, nés de GPA, qui sont très heureux et qui vont dire bah, « je préfère quand même être né qu'autre chose ». Demain, bah, un enfant ne va pas se plaindre d'avoir été justement bien choisi pour avoir 162 QI au lieu d'avoir 70 de QI. Comment on va choisir ? Même à chaque fois, ces partisans de ceux qui vont justement dire de l'antiracisme, etc. On va choisir quoi ? On va choisir si cet enfant, il va être blanc, si va être noir, s'il va être métissé, vous voyez, ce type de choix. Et ça induit des changements dans la société. On passe notre temps à dire qu'on est aujourd'hui dans une lutte civilisationnelle, qu'il y a justement l'islamisme qui prospère dans notre pays parce que nous, on ne sait rien proposer. Et en fait, on ne sait rien proposer parce qu'on ne sait pas défendre des principes. Parce que oui, les principes, ça a une valeur aujourd'hui.
Maître Roy, pour conclure cette émission qui se termine, pour conclure, vous avez le mot de la fin, maître.
Beaucoup de choses, je voulais réagir.
Voilà, c'est pour ça que je vous voyais.
Ouais. Non, mais je pense que, pardon, mais j'étais peut-être naïve tout à l'heure, je ne sais plus sur quel sujet vous m'avez dit je suis naïve. Ah oui, c'était sur les universités, sur le fait que la direction de Sciences Po avait
voulu organiser un débat et avait voulu qu'elle mette le jeu.
Un débat, ouais. Etc. Moi, je pense que vous êtes un peu sévère, un peu radical dans votre façon d'aborder le sujet, notamment de la GPA, en le mélangeant avec d'autres sujets bioéthiques. Il me semble que ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas du tout dans un. La GPA, c'est un vrai sujet de société. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet. C'est les gens qui veulent avoir. Oui, non, mais Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit oui, alors après, on va choisir le génisme, on va choisir la couleur des yeux, le QI, le
si,
etc.
Ce sera l'avancée.
L'islamisme.
Mais non, mais ce sera l'avancée.
Pardon, mais là,
mais on arrive au terme. Et voilà. Nous reprendrons très prochainement.
Non, mais voilà, vous mélangez un peu tous les sujets. Ça vous dessert.
Nous reprendrons le débat.
Vous avez parlé de GPA éthique. Je pense que justement, c'est un biais. Il y a une bataille sémantique autour de cette distinction entre la GPA éthique et la GPA mercantile. C'est un biais pour pouvoir faire avancer, mais la vérité, c'est que la directive européenne condamne toutes formes.
Les uns et les autres, vous aurez toute la semaine pour défendre votre point de vue, puisque c'est la une du JDD, et nous en parlerons bien évidemment autour de ce plateau demain et dans les jours qui viennent. Un grand merci, Maître Florence Croix, merci Raphaël Stainville, merci à vous Éric Tegner, merci à vous de nous avoir suivis, merci à Benjamin Naud de m'avoir aidé à préparer cette émission, à toutes les équipes techniques, bien évidemment. L'actualité continue sur CNews, ce sera dans un instant Simon Guillain pour Mathieu Devès, pardonnez-moi, Simon Guillain est parti se coucher. Mathieu Devès pour l'édition de la nuit. Et je vous retrouve demain à 17h pour Punchline Weekend. Excellente soirée sur notre antenne.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.